Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue à ce journal. Manifestation ce matin à Bobo-Dioulasso. Objectif, exiger le boycott des assises nationales et réclamer le capitaine Ibrahim Traoré comme président du FASO. Sortie de Achille Tapsoba contre Eddy Kombéogo, le premier vice-président du CDP Boubacar Sanou juge Achille Tapsoba de comédien. Insécurité au Bénin, 8 terroristes ont été tués et d'importants matériels de guerre ont été saisis selon l'armée. Présidence de la transition, le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, préconise que le MPSR assume son coup d'État en nommant lui-même le successeur de Damiba à la tête du pays. L'ancien ministre de la Réconciliation nationale est notre invité, vous l'entendrez enfin à deux journaux. Et nous commençons par la ville de Bobo-Dioulasso, où des manifestants ont une fois de plus sonné la mobilisation ce matin à la place Tiofo à Moro. Ils exigent le boycott des assises nationales et réclament le capitaine Ibrahim Traoré comme président du FASO. On en sait plus avec Adama Assombi et Mamou Ouidraogo.
En commençant par la fermeture du grand marché de certains établissements primaires et secondaires, également la fermeture des magasins, ces manifestants munis de sifflets, drapeaux russes et des t-shirts où l'on pouvait voir des photos de Ibrahim Traoré et de Assimi Goïta, titré Ibrahim Traoré ou rien. Ces manifestants disent exprimer leur soutien au nouveau président du MPSR. Emmanuel Dar, porte-parole des manifestants.
Porter notre soutien, camarade Ibrahim Traoré, et réellement demander à la population de le suivre. Parce que nous sommes prêts pour lui. Nous sommes prêts réellement pour un patriote qui est prêt pour ce pays. Et avec sa vision, ce qu'il est venu, ce qu'il nous a dit, nous sommes convaincus qu'il a des idées encore pour quand même développer ce pays. Il a des idées pour sortir ce pays-là du chaos. Donc réellement, notre sortie ce matin, c'est pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. Donc nous demandons à toute la population boulaise de le soutenir.
Tout est urgent, sauf la tenue de ses assises pour ses manifestants. Il réclame également une explication du capitaine Ibrahim Traoré sur l'importance de la tenue de ses assises.
Concernant les assises, nous avons demandé actuellement, c'est vrai, il doit faire les assises, mais c'est pas l'heure. Lui-même, il a dit tout est urgent. Il nous a fait savoir que tout est urgent, ça doit être rapide. Ça veut dire pour nous aujourd'hui, c'est pas l'assise le problème. Mais s'il décide qui est l'assise, il n'a qu'à expliquer réellement et l'avantage de ces assises-là à son côté, à la population. Parce que nous sommes là depuis, nous parlons, nous le soutenons, mais il nous a pas encore parlé. Voilà, donc nous demandons si tout réellement que c'est urgent de faire des assises, il n'a qu'à nous communiquer également.
Selon ces manifestants, la marche se poursuivra à Bobo-Dioulasso jusqu'au 15 octobre prochain. Mamou Draogo, Bobo-Dioulasso, Radio Oméga.
Et parlant de ces assises qui s'ouvrent demain, Achille Tapsoba ne reconnaît pas Eddy Kombéogo comme président du CDPIM. Dans une lettre adressée hier au président du comité d'organisation de ces assises, dont Oméga Média a obtenu copie, Achille Tapsoba a récusé le choix d'Eddy Kombéogo comme représentant du Congrès pour la démocratie et le progrès CDPIM. Achille Tapsoba, qui dit être le président par intérim du parti, a brandi deux arguments pour justifier cette position. Eddy Kombéogo est sous sanction d'une suspension de 6 mois depuis le 16 juin en dernier, mais fait aussi l'objet de poursuites judiciaires, aussi bien civiles qu'au pénal. Et le ministère en charge de la décentralisation aurait été saisi de la situation qui prévaut au sein de l'ex-parti au pouvoir. Le CDP, parti de l'ancien président Blaise Compaoré, traverse une crise dont les principaux protagonistes sont Eddy Kombéogo, qui affirme avoir tenu le 8e congrès ordinaire les 18 et 19 décembre 2021, et Achille Tapsoba, qui compte organiser ce 8e congrès les jours à venir. Le clan Eddy Kombéogo n'a pas tardé à réagir suite à cette sortie d'Achille Tapsoba, joint par Bernabé Cabré. Boubacar Sanou, premier vice-président du parti, a indiqué qu'Achille Tapsoba est un comédien et il est suspendu d'ailleurs des organes et instances du CDP. Nous l'écoutons.
Achille est dans une grande farce, c'est une grande comédie. Et vous vous souviendrez que la dernière session du Bureau politique national, la 72e session, en date du 2 juillet, a suspendu Achille Tapsoba pour 6 mois et des instances et organes du CDP. Et donc, et depuis le 8e congrès, Achille n'est plus membre du bureau exécutif national du CDP. Donc, tout ce que Achille est en train de faire, c'est purement et simplement de l'usurpation. Je trouve quand même déplorable que quelqu'un, avec toutes les responsabilités qu'il a occupées au niveau donc de ce pays, qu'il continue toujours dans ses manœuvres dilatoires-là. Et vous souviendrez également que depuis le 24 janvier à nos jours, pour toutes les correspondances, l'administration s'est toujours adressée donc au président Edu Komoyo comme étant président du CFOP. Et jusqu'à présent, donc, l'administration n'a pas dérogé à cette règle de considérer le président Edu Komoyo comme président du CFOP. Donc, Achille, c'est un acte désespéré qu'il est en train de poser. Et également, c'est un acte de communication envers donc tous ceux qui l'ont embarqué dans cette aventure. Et en faisant croire donc qu'effectivement, il pouvait donc suspendre le président Edu Komoyo et puis diriger le parti. C'est vraiment dommage, c'est triste. Et pour que quelqu'un donc avec toute l'expérience qu'il a, et que les choses se terminent comme ça pour lui.
Boubacar Sanou, premier vice-président du CDP, et pendant que la querelle se poursuit au CDP, chez les partisans du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, c'est pas la joie. La justice militaire a statué hier sur sa libération provisoire au terme d'une audience qui n'a duré que plus d'une heure. Le tribunal a rendu donc son verdict. Le lieutenant-colonel reste en prison. Il est accusé de complot, détournement de biens publics, faux et usage de faux, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Abdelaziz Zoulabou nous en dit plus.
La demande de liberté provisoire pour le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana a été rejetée. À l'issue de débats de plusieurs heures, le tribunal militaire n'a pas été convaincu par la pertinence des arguments avancés par la défense. Quelques minutes auparavant, maître Paul Kéré, avocat de la défense, était pourtant confiant.
Il y a un débat qui s'est instauré en ce qui concerne le blanchiment de capitaux. Il faut savoir que le blanchiment de capitaux n'est pas une infraction autonome. C'est une infraction sous-jacente. C'est-à-dire qu'elle découle d'une autre infraction principale. Quelle est cette infraction principale? Cette infraction principale, c'est le détournement de deniers publics qu'on reproche à Zungrana, qu'il conteste bien sûr. À partir du moment où pour cette infraction de détournement de deniers publics ou d'enrichissement illicite, il a été mis en liberté provisoire par la chambre de contrôle de l'instruction. Évidemment, le blanchiment de capitaux en lui seul ne peut plus justifier sa détention à la Maca.
Emmanuel Zungrana reste en prison pour la suite de la procédure. Déception pour les partisans du lieutenant-colonel réunis plus tôt dans la matinée devant la justice militaire pour, disent-ils, lui apporter leur soutien. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, ancien commandant du 12e régiment d'infanterie commando basé à Waïguia, a été arrêté et placé en détention le 10 janvier 2022. Il est accusé de complot, détournement de biens publics pour usage de faux, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. 9 autres personnes ont été mises en examen et plus de 30 témoins auditionnés.
Les avocats du lieutenant-colonel espéraient sa libération provisoire afin qu'il rejoigne le front pour la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme, justement, en parlons-en. 8 présumés terroristes ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dernier dans une attaque contre une position de l'armée à Matéri, dans le nord-ouest du Bénin, frontière avec le Togo et le Burkina Faso. C'est ce que rapporte l'état-major des armées du Bénin dans un communiqué. Les terroristes ont tenté de s'infiltrer dans le dispositif des forces armées béninoises à Matéri en vue d'y mener une attaque complexe, a indiqué la note qui précise que pendant la préparation matérielle de la dite attaque, les terroristes ont été surpris par le dispositif de veille de l'opération Mirador et ont fait exploser une mine artisanale qu'ils se préparaient à mettre en place. L'état-major de l'armée du Bénin explique que, tenant à avoir des résultats, le reste de l'équipe de terroristes a essayé d'attaquer la position des forces armées béninoises qui étaient dans les environs. La réaction des militaires béninois déployés à Noiri dans l'arrondissement de Dassari a permis leur complète mise hors d'état de nuire. Au moins 8 terroristes ont été éliminés et d'importants matériels de guerre, de communication et d'acquisition ont été récupérés, peut-on lire dans le communiqué qui souligne que les recherches se poursuivent en vue de mieux faire face à la menace dans la région.
La revue de presse.
Et nous retrouvons Asma Oudao pour la revue de presse de ce jour.
Les assises nationales prévues demain vendredi retiennent l'attention de la majorité des confrères. Pour Sidoya, elles sont décisives et il souhaite que les décisions qui seront issues de ces assises nationales reflètent les aspirations profondes du peuple burkinabé. L'Express du Faso, brandissant la pression populaire, note que les Burkinabés ont déjà tenu leurs assises. Les Burkinabés ont déjà clos les assises. Certains n'hésitent même pas à mettre en garde si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte, lit-on. Pour le pays, pourvu que ce ne soit pas encore un autre rendez-vous manqué, que le jeune capitaine comprenne que tous les appels du pied qu'il reçoit en ce moment ne dérogent pas à cette tradition et qu'il ait un sursaut de lucidité pour ne pas emprunter le chemin de son prédécesseur. Les Burkinabés l'applaudiront ou le vomiront en fonction de leur position par rapport aux richesses de l'État, mais son salut dépendra de ce qui fait aujourd'hui l'unanimité. Tout autre chose avec le confrère Le Quotidien, il loue l'opération nationale Sauvons Djibo Ensemble. Pour lui, on ne peut que saluer à sa juste valeur l'opération Sauvons Djibo Ensemble et les initiateurs qui ont réussi là où certains ont échoué. La solidarité agissante a été magnifiée et c'est le Faso qui gagne, écrit-il. Or, de chez nous, au Tchad, on parle de la nomination d'un opposant politique, Salé Kebzabo, au poste de Premier ministre de la Transition. Aujourd'hui, au Faso parle d'une grosse prise de guerre pour transition délicate de 24 mois. Il fait remarquer entre les lignes que l'actuel homme fort du Tchad, Salé Kebzabo, n'en demeurait pas moins un des grands opposants de la fratrie Déby, notamment avec le maréchal contre qui il guerroya par trois fois dans les urnes pour la présidentielle. Maintenant, le confrère se demande, résoudra-t-il les problèmes des Tchadiens? La lutte contre la pauvreté, le chômage et surtout la pacification de ce pays métastasé par une kyrielle de rébellion. À propos, ça cogite dans la tête du doyen des quotidiens qui voudrait bien savoir si cette promotion de Kebzabo mercredi dernier est un retour sur investissement. Avant d'estimer que cette nomination de Salé Kebzabo au poste de Premier ministre apparaît comme une conquête politique pour cet ancien opposant farouche au père de celui qui vient de lui offrir le fauteuil de la primature.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Désignation prochaine du président de la transition. Le MPSA devrait désigner le successeur du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. C'est la conviction du président de l'UPC, Zéphirin Diabré, ancien ministre de la Réconciliation nationale. Il commence ici par nous dire comment il a vécu les événements du 30 septembre dernier.
Comme tous les Burkinabés et comme tout citoyen, puisqu'on a été réveillé donc par les différents coups de feu et la tension qui régnait en ville, je dois dire que pour tout observateur averti de la scène politique, on sentait bien quelques semaines auparavant qu'il y avait une montée de la tension et on pouvait s'attendre donc à ce que ça débouche donc sur un coup de force. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas été particulièrement surpris.
Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas été surpris en tant que tel?
D'abord, l'évolution du régime lui-même depuis le mois de janvier, la promesse initiale et le motif qui a été exposé pour faire le coup d'État, c'est la question sécuritaire. Mais on a vu quand même qu'il y avait eu des incidents qui semblaient à confirmer que, contrairement au discours officiel, les choses ne s'amélioraient pas. Et puis, bon, Ouagadougou étant ce qu'elle est, on entendait beaucoup de choses sur des tensions à l'intérieur donc, du MPSR, qui était le groupe d'anglais, qui est le groupe toujours d'ailleurs au pouvoir. Donc tout cela laissait penser que peut-être des choses allaient se passer, mais de quelle nature, je ne sais pas à même de vous le dire. Mais donc c'est dit que ce n'était pas une surprise ce qui s'est passé.
Ce n'était pas une surprise. Alors juste après, donc, il y avait vraiment un risque d'affrontement sanglant, mais par des différentes médiations, apparemment les choses sont entrées dans l'ordre. Damiba a accepté donc céder le fauteuil sans qu'il n'y ait un bain de sang. On n'a pas vraiment senti les acteurs politiques en tant que tels.
D'abord, il faut qu'on sache ce que l'on veut. Mort dans ce pays-là aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut tenir les acteurs politiques à l'écart de tout parce qu'ils seraient à l'origine des problèmes du pays, première chose. Deuxièmement, c'est un affrontement entre fractions de l'armée. J'espère qu'aucun acteur politique n'était dans un camp contre un autre parce que c'est quand même pas notre rôle d'aller soutenir des fractions militaires contre d'autres fractions militaires. En tout cas, pour ce qui concerne mon parti, l'UPC, c'est la position à laquelle nous en sommes tenus. Nous sommes des démocrates, donc nous n'avons pas à choisir entre deux putschistes, hein, puisque, en l'occurrence, c'est ce dont il s'agissait. Cela dit, il m'a été amené, comme d'autres, de lancer un appel pour qu'on fasse tout pour éviter un affrontement entre des fractions d'une même armée, qui, du reste, est en but au combat contre le terrorisme. ce déchirement-là n'aurait rien apporté, sinon même pire, à notre pays.
Alors, il faut souligner que la tension n'est pas véritablement passée. Selon certains acteurs, l'armée a été véritablement fragilisée. La cohésion sociale est à rude épreuve actuellement suite à ces différents coups d'État que le pays a enregistrés. Alors, que faire?
D'abord, tirer les enseignements de toutes ces évolutions-là et peut-être rappeler ou appeler les uns et les autres à l'humilité. Vous rappelez au lendemain du coup d'État du 24 janvier, vous comme moi avons entendu ou même parfois échangé avec des officiers et le langage était de dire que la situation du pays était de la faute des hommes politiques et que bon, eux venaient avec une nouvelle manière de faire qui allait régler tout cela très rapidement. Vous savez, quand on ne gère pas, hein, c'est facile de tenir des discours péremptoires. D'autant plus que, à peine huit mois à peine, c'est au sein même de ce groupe qui a fait le coup d'État qu'il y a un nouveau coup d'État. Voilà, ça veut dire que donc il n'a même pas réussi à conserver sa propre cohésion. Voilà, donc quand c'est comme ça, ça doit donner des leçons d'humilité aux autres. Donc la première et la plus urgente des tâches aujourd'hui pour ceux qui sont là, c'est sans doute de faire en sorte qu'on puisse retrouver très rapidement cette cohésion, cette unité, cette discipline.
Alors, le débat aujourd'hui aussi, on a vu pendant les récents événements, donc, la population qui est sortie avec, pour certains, des drapeaux russes, réclamant donc à ce que les nouvelles autorités se tournent davantage vers la Russie, unique partenaire donc dans la lutte contre le terrorisme. Quelle est votre position ici?
Un pays, pour son développement ou pour résoudre ses problèmes, doit d'abord compter sur ses propres forces. Il faut que l'on commence par là. C'est dire donc que personne, qu'il soit français, américain, chinois, russe, ne doit venir ici pour nous sauver de nos pétrins. Ou en tout cas, ne nous mettons pas dans la posture de penser que notre salut vient de l'extérieur, quel qu'il soit. Tous les pays gouvernent ce monde-là ou ont des relations internationales basées d'abord sur leurs intérêts. Si on a compris ça, on peut maintenant accepter qu'un pays aussi peut avoir des amis qui peuvent l'aider dans un partenariat gagnant-gagnant. Et en la matière, on n'a pas à choisir les uns contre les autres. Tous ceux qui peuvent nous aider, bien entendu dans des formes qui auront été arrêtées, sont les bienvenus, y compris la Russie. Maintenant, mon problème avec toutes ces coopérations-là, c'est de savoir quel est l'accord de coopération qu'on a conclu, avec qui on l'a conclu, et qu'est-ce que nous gagnons dedans. Je suis un partisan très très irascible des accords de coopération au niveau étatique, État-État, d'État-État, signés par les plus hautes autorités, parfois peut-être ratifiés par les parlements, et de manière transparente.
L'autre question également, je disais donc les assises nationales, c'est pour cette semaine. Et déjà, ce qu'on attend beaucoup plus, c'est, on peut dire, la formule pour la désignation du futur président du FASO. Déjà, les couleurs sont annoncées, un président civil ou militaire. Vous, quelle est votre position là-dessus?
Ce qui s'est passé récemment est un coup d'État dans un coup d'État. Donc, si on doit apprécier les choses, il faut rester dans une certaine cohérence. Au mois de janvier, lorsque le même MPSR a fait son coup d'État, bon, pour des raisons diverses, la plupart des acteurs de la vie nationale ont pris acte en fondant l'espoir qu'il y aura donc des résultats très palpables donc sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Là, le MPSR lui-même, dans ses contradictions, vient nous dire que la direction qui avait été adoptée peut-être n'était une erreur et elle change donc de direction. Dans ce cas-là, c'est une sorte de continuité du MPSR. Mais de manière beaucoup plus large, la question que l'on doit se poser est de savoir si un coup d'État que l'on fait doit encore amener une procédure de désignation de la personne ou de l'organe qui doit diriger. Le MPSR lui-même qui a fait un propre coup d'État à lui-même, qui s'est rectifié comme on dit. Donc pour moi c'est le MPSR qui doit désigner la personne, qui doit assurer donc la continuité.
Merci à vous Zéphirin Diabré.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction.
Notre invité du jour à l'instant, Zéphirin Diabré, président de l'UPC, vous l'aurez compris, ici sur FM, ce journal, à la réalisation Adama Konaté pour le web Ibrahim Niaouné, à la présentation Denis Zungrana, et ce proverbe béninois donc pour nous dire au revoir, cultiver au soleil et manger à l'ombre. Excellente journée.
Radio Omega, l'info en direct.